Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23. On est ensemble jusqu'à 15h et c'est un vrai bonheur d'être avec vous. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Estelle Midi en podcast. On vient de battre un record historique, on est très fiers. Plus de 700 000 podcasts téléchargés au mois d'octobre, une hausse de plus de 154% en un an. Alors sur
ça, c'est de
n'hésitez
l'inflation.
Pas. Oh là,
ça, c'est... La bonne,
c'est la bonne inflation.
C'est comme le bon cholestérol. Cholestérol, ça c'est de la bonne inflation.
Et en plus c'est gratuit, vous vous rendez compte, c'est formidable. Donc vous n'hésitez pas, bien sûr, vous continuez à nous écouter en podcast sur le site rmc.fr, mais aussi sur toutes nos applications, vos applications de podcast. Et c'est midi continue. Donc dans un instant, on parlera d'Aurélien Pradier, le candidat à la présidence des LR, qui vient de dire je suis pour l'interdiction du voile, peut-être même dans l'espace public. D'accord ou pas d'accord avec lui? On vous attend au 32-16, 13h30. Ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Alors là, écoutez bien cette minute conso, on va vous parler des billets congés de la SNCF. Personne ne le sait et pourtant, vous pouvez une fois par an avoir des énormes réductions sur vos billets de train. Il suffit juste de télécharger un formulaire. Stéphane nous dira ça vers 13h50. 14h, il n'existe plus aucune voiture neuve en France à moins de 10 000 euros. La voiture est-elle devenue un luxe? Et puis bien sûr... le coffre RMC, Rémi.
Oui, à quelques jours du début de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech grâce au coffre RMC. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 732-16. Et si vous êtes sélectionné, vous repartirez soit avec un iPad, soit avec une enceinte Marshall Woburn. C'est déjà pas mal.
C'est top.
Si vous êtes joueur, alors c'est bon. Voilà. Vous renoncez à ce cadeau, d'accord, mais vous ouvrez le coffre RMC avec à l'intérieur des AirPods ou... la totale Coupe du Monde avec une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Alors, est-ce que vous oserez ouvrir le coffre RMC?
Oh oui.
Vous vous inscrivez par SMS en envoyant le mot coffre au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
13h05 sur RMC, RMC Story, et on va continuer Estelle Midi avec la petite phrase du jour. C'est celle d'Aurélien Pradier, candidat à la présidence des LR. Il se dit pour l'interdiction du voile, peut-être même dans l'espace public. On l'écoute. Bon, on va pas l'écouter maintenant.
En tout cas,
Rémi, c'est pas la première fois qu'une personnalité politique se prononce contre le port de signes religieux dans la rue.
Oui, l'idée a déjà été défendue durant la dernière campagne présidentielle par Éric Zemmour et par Marine Le Pen. La question avait d'ailleurs été l'objet d'un vif échange entre la candidate du RN et Emmanuel Macron lors du débat télévisé de l'entre-deux-tours le 20 avril dernier. Marine Le Pen avait alors affirmé que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. La grande majorité le met car elles ne peuvent pas faire autrement. Il faut donc interdire le voile dans l'espace public. Réplique d'Emmanuel Macron, la laïcité, ce n'est pas combattre une religion. Si vous rentrez dans cette logique, vous ferez ensuite interdire la kippa, également en signe religieux. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron à Marine Le Pen ce soir-là. Reste que, selon un sondage CSA publié au lendemain de ce débat, 60% des personnes interrogées se prononçaient pour l'interdiction du voile dans l'espace public, donc y compris dans la rue. Une position défendue par toutes les catégories d'âge, ou presque. Seuls les 18-24 ans dans ce sondage étaient majoritairement contre.
Interdiction du voile dans l'espace public, d'accord ou pas d'accord? Je vais commencer avec vous, Thierry Moreau.
J'ai envie de dire la loi, rien que la loi, toute la loi. Mmh. On a aujourd'hui une loi qui fait que dans l'espace public sont interdits le voile intégral, hein, celui qui couvre complètement le visage, depuis notamment les attentats, c'est une loi de 2010.
Bien sûr.
Et puis dans un certain nombre de services publics, le hijab, tout comme la kippa, la grande croix, ou le datar, qui est le voile sikh. Encore faut-il qu'elle soit appliquée, très clairement, et il faut être sans faille sur l'application de cette loi. Il ne faut pas non plus se tromper sur cette déclaration d'Aurélien Pradier. Il y a une course à l'échalote en ce moment.
Bien sûr.
pour la présidence des Républicains. C'est un peu à celui qui sera le plus républicain des Républicains. Ils sont coincés entre une majorité qui leur fait des appels du pied pour pouvoir voter un budget, donc les attirant vers la majorité, et de l'autre côté un Front National qui se structure, qu'on voit partout dans les médias, etc. Donc ils sont dans un espace politique restreint. Donc je dirais qu'entre Ciotti et les autres, il y a quand même une course à l'échalote, très clairement. Voilà, je pense qu'il faut appliquer la loi. Il n'y a pas besoin d'une loi supplémentaire. Si on commence à régenter la façon dont les gens doivent s'habiller dans l'espace public, on va jamais s'en sortir.
Après, c'est pas un habit, vous le savez très bien. C'est pas un simple habit.
Non, mais alors oui, parce qu'on assiste effectivement. C'est bien que vous disiez ça. On assiste depuis le printemps à une offensive de provocation, notamment de gamins à qui on demande de provoquer dans les établissements scolaires, etc. Là, faut être intraitable. Mais en revanche, rien que la loi, toute la loi, mais la loi.
Est-ce que c'est gênant d'entendre ce type de déclaration, Emmanuel Dancourt, parce qu'on serait quand même le seul pays au monde à faire ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu, je vais dire, quelque part, démago de la part d'Aurélien Pradé pour essayer d'avoir des voix. Quoi. Mais c'est infaisable.
Je trouve que Thierry a pas mal résumé la situation. Moi, ce qui me gêne, c'est le mot interdiction. Enfin, je ne peux être que d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit que ça va contre les principes fondamentaux de notre République, qui est une République laïque, et que cette opposition totale, elle va contre nos principes. Et puis surtout, elle fomenterait une rébellion. Ça fomenterait, ça fait grandir des causes peut-être, je sais pas si absurde est le mot,
renforcerait le communautarisme.
Voilà, exactement. Et pour autant, évidemment que c'est compliqué, cette histoire d'utilisation du voile. Jérôme Lavrieux rappelait ici même dans cette émission hier que 90% des musulmans en France ne le portaient pas, hein, que ça concerne un petit pourcentage, hein, et que pour autant ce petit pourcentage fait beaucoup parler de lui. Évidemment, moi je crois aux vertus du débat, je crois aux vertus du dialogue, des explications. C'est par l'éducation qu'on fait grandir les gens. Et quand on interdit, on infantilise et on ne sait pas ce qu'on nourrit finalement. Donc voilà, moi je ne suis pas forcément pour ce qui se passe avec ce port du voile obligatoire, alors qu'on sait que dans le Coran, le voile est cité, mais c'est cité de manière culturelle, pas du tout religieuse, quand on regarde les sourates qui concernent vraiment ce voile. Mais pour revenir à Aurélien Pradier, oui, enfin une interdiction, moi ça me paraît en
déjà
France,
des interdictions là où il faut.
Dingue, mais exactement, elles sont déjà en place. Pourquoi rajouter ça? Mais comme tu dis, c'est la course à l'échalote, il y a une élection en jeu, etc., etc. Quoi.
Vous êtes d'accord avec ça, vous, Fred Hermel? Il ne faut pas interdire, en tout cas, le voile dans l'espace public.
Mais ça ne sert à rien de proposer quelque chose qui n'est pas constitutionnel, de toute façon. Donc c'est pas possible d'appliquer quelque chose comme ça.
Voilà. Très juste.
Voilà. Donc ça sert à rien d'être un responsable politique et de proposer une loi qui, quoi qu'il arrive, sera retoquée par le Conseil constitutionnel. Parce qu'il n'est pas possible de régenter dans un pays.
Il dit peut-être, hein. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il se dit, voilà,
ça ne fait pas avancer le schmilblick. Par contre. Il y a peut-être quelque chose à faire sur la notion d'espace public. C'est-à-dire que dans la rue, chacun s'habille comme il veut, c'est la kippa, la grande croix, etc. Mais il n'y a pas de problème. Cependant, on peut imaginer que le travail, le bureau, l'usine, c'est pas un service public, que c'est pas l'espace public, et que là, par exemple, on peut demander à quelqu'un d'enlever sa kippa, d'enlever son voile. Ça oui. Par exemple,
dans une entreprise privée.
Oui. Bien sûr.
C'est à la discrétion de l'employeur.
On peut peut-être autoriser ou pousser les employeurs à dire, parce que je comprends qu'on puisse être gêné quand on n'est pas catholique, par exemple, d'avoir au bureau. Laissez-moi terminer mon argumentation. En face de soi, quelqu'un qui a une grande croix, ça peut gêner. Quelqu'un qui a un voile, etc. Quand tu vas au supermarché, moi, j'ai pas envie que le caissier ait une grande croix ou une kippa ou la caissière
soit un voile.
Mais c'est mon avis personnel. Moi, j'estime que quand on est, mais je sais pas, ce que je pense qu'on est dans un pays laïque.
Mais pourquoi ça te gênerait plus au supermarché que dans la rue? C'est ça que je comprends pas.
Mais parce que le supermarché, je t'explique, je parle du travail. Pas la personne qui entre dans le supermarché, mais la personne qui travaille dans le supermarché. J'estime que sur son lieu de travail, on n'a pas à afficher des opinions d'une appartenance de manière ostentatoire, une appartenance religieuse. Voilà, c'est pourquoi.
Ça, encore une fois, c'est à la discrétion de l'employeur.
Mais oui. Et
d'ailleurs, dans certaines entreprises, il y a des règlements intérieurs qui pour des raisons de sécurité, notamment, empêchent le voile.
Non, mais c'est pour ça. Je trouve totalement idiote la proposition de Aurélien Pradier, parce que chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais je trouve qu'à partir du moment où tu as ton travail, j'estime que là, on n'est plus dans l'espace public.
Sauf que tu te trompes, entre l'espace public et l'espace du travail, c'est toujours un espace de commun.
Non, mais dans la rue, tu gênes personne. Mais
que en fait, tu gênes personne dans le supermarché.
Mais oui. Mais bah, si, quand tu vas, toi, faire tes courses et que la personne à qui tu dois avoir affaire.
Si notre ami, à l'heure, qui met les trucs en rayon, il a une grande croix ou une kippa, je m'en fous du moment qu'il met bien en rayon.
Moi, ça me dérange.
Et qu'est-ce qui te dérange?
Au nom de la laïcité.
Ah d'accord, bah oui, mais...
Voilà,
mais alors, je comprends
la laïcité au supermarché. C'est pour moi une différence dans sa vie personnelle. Quand tu es dans la rue, tu fais ce que tu veux, etc. Mais à ton travail, je pense qu'on doit demander une discrétion religieuse à tout le monde.
Bon, bah écoutez, ça c'est votre avis.
Et c'est mon avis. Je suis là pour ça d'ailleurs.
Juste comprendre. Là, tu vois, je porte.
Mais oui, mais c'est ostentatoire.
Ça fait un an que je suis dans cette émission et que je porte cette croix de Saint-François d'Assise.
Elle est très belle d'ailleurs.
Alors, je le dis pour les gens qui nous écoutent à la radio, c'est une minuscule croix qu'on ne voit même pas.
Ce n'est pas ostentatoire.
C'est pas ostentatoire. C'est pas un crucifix.
Moi, j'ai un crucifix là, mais il est sous ma chemise.
On va pas faire un concours, les gars.
C'est un de tes chroniqueurs, Estelle, si t'avais fait venir. Par exemple, une religieuse ou un moine dominicain, un moine jésuite, il viendrait en habit.
Mais c'est pas pareil.
Oui,
c'est
oui, mais non, moi, ça me gêne pas, donc je vais pas. Voilà.
Je veux que la personne fasse bien son boulot. Après qu'elle ait une croix, une kippa ou une étoile de David,
Même en tant que catholique pratiquant, ça me gênerait si toi, Thierry Moreau, en face de moi, tu avais une grande croix. Voilà.
Bon, bah écoutez.
Chacun son truc. Voilà, moi, j'estime qu'on est un pays
d'Aïe. Une vierge tatouée dans le dos, t'en sais rien.
Mais on la voit pas.
Vous avez des messages, Rémi?
Exactement, ce message notamment de Samira qui nous dit bonjour. Comment on fera Aurélien Pradier pour interdire le voile dans l'espace public s'il veut le faire? Mettra-t-il des policiers partout? Ce n'est pas ce que dit la laïcité d'après la loi de 1905, interdire le couvre-chef des sœurs catholiques. Allons-y. Est-ce un effet d'annonce pour gagner la présidence des Républicains?
On est avec Nordine Bourras, il est président de la mosquée de Liévin. Bonjour Nordine Bourras.
Oui, bonjour Estelle.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Est-ce que ça vous a fait bondir ces propos d'Aurélien Pradier?
S'il y avait un adjectif plus que bondir ou un verbe plus que bondir, je l'aurais employé volontairement et volontiers parce que c'est encore une fois, et comme l'a dit si gentiment Thierry Moreau, avec qui je partage beaucoup de ses attitudes et puis de ses commentaires, il est dans la course à l'échalote et c'est à celui. J'attends avec impatience la réaction de Ciotti. Peut-être qu'il va nous créer une réserve indienne où il va mettre tous les musulmans et voilà. C'est terrible d'en arriver à ces extrémités-là. Nous, on ne demande qu'une chose en tant que musulmans et français, de ne vivre qu'en paix avec tout le monde et en respectant les lois de la République, simplement.
Vous sentez discriminé quand vous entendez des propos comme ça?
J'arrête d'en parler parce que discriminer, c'est plus le mot, c'est
stigmatisé.
On est toujours la chair à canon électoral d'un Ciotti, d'un Zemmour, un Pradier qui est un Zemmour light. Enfin bref, c'est toujours dans la surenchère contre les musulmans pour attirer des voix de pseudo républicains ou de français un peu extrémistes sur les bords qui n'osent pas franchir le Rubicon électoral pour voter Zemmour ou Le Pen. Quoi. Mais ça en devient pénible, franchement pénible.
Mais c'est pas sûr que ça lui rapportera des voix, d'ailleurs.
À mon avis, un strapontin électoral, oui, après la future dissolution de l'Assemblée. C'est à celui qui en fera le plus, qui en dira le plus contre les musulmans.
Mais on sent dans votre voix que ça vous touche.
Ah bah bien sûr, sans pression, évidemment.
Parce que ça met... Je le trouvais sympathique au demeurant. Il est beau gosse. il est plutôt dynamique. C'est quand même un politique en devenir en France. Ouais. Et nous, moi je suis président depuis plus d'une dizaine d'années. On s'évertue autant que faire se peut de faire face à tout ce à quoi on en subit, les assimilations. Au terrorisme, la radicalisation, un certain nombre de choses. Et je peux vous dire que 97, la très grande majorité des musulmans, ils n'aspirent qu'à une chose, vivre leur religion en paix. Et ce qu'oublie M. Aurélien Pradier en tant que député qui vote les lois, la France est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça contrevient à la déclaration numéro 18 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On peut pratiquer sa religion comme on veut et en s'habillant comme on veut dans l'espace public. C'est ça qui que c'est sidérant. C'est et moi qui voyage beaucoup, je peux vous dire qu'il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Moi, c'est le gap.
Mais il y a aucun pays qui a interdit le voile dans la rue. Ça aucun pays dans le monde. Donc on serait les premiers, ce qui est quand même.
Et où le débat sur le voile fait justement fait débat. On parle des pays occidentaux. On parle des pays occidentaux. En Allemagne, en Grande-Bretagne,
mais c'est pas des pays laïcs. Ce sont pas des pays laïcs. L'Allemagne, la Grande-Bretagne ne sont pas des pays laïcs.
Il n'y a pas de débat.
Voilà, c'est donc.
Fred, la laïcité dans ce cas-là, la Bondo, je suis désolé, je te tutoie parce que t'es un ch'ti comme moi.
Bah ouais, t'es diévin, donc t'es supporter du Racing Club de Lens, hein, donc on entend bien ton accent que t'es de chez nous, hein. Ouais,
donc. Mais il n'en reste pas moins que, rien qu'en traversant le Channel, on va souvent, très souvent en Angleterre de l'autre côté, mais c'est une autre vie du côté du quartier de Baker Street, etc.
Ouais, mais c'est pas un exemple.
Il y a des hindous, il y a des. Tout le monde s'habille comme il veut, et ça ne gêne personne. Et pourtant, ce sont des démocraties.
Sauf que le chef de l'État. Excuse-moi, Nordine, comment suis-toi? Le chef de l'État du Royaume-Uni, c'est le roi. Donc voilà, la France n'est pas
le chef de l'Église.
Voilà,
mais
là,
tu
chipotes là, en fait.
Bah, non, je chipote pas. Ça change tout. C'est-à-dire que nous, notre président, il n'est pas religieux, alors que le chef de l'État en Angleterre, il est religieux par nature, quoi. Donc ça, c'est important de le conserver. Et justement, la laïcité à la France. Française, moi je la comprends parfaitement en tant que croyant et pratiquant, c'est qu'elle permet à chacun de vivre sa religion. Il n'y a pas de religion qui soit plus importante qu'une autre en France, grâce à la laïcité. Et si les musulmans en France, t'es d'accord, un musulman n'a pas moins de droits religieusement qu'un catholique en France. Et ça c'est la grande, l'aspect grandiose de laïcité.
Alors on a pas mal d'appels. Nordine Bourras, restez avec moi dans Estelle Midi, parce que on a aussi des appels d'auditeurs qui eux sont plutôt favorables à ce que propose Aurélien Pradier. Et parmi eux, il y a Philippe qui nous appelle de Trèbes dans l'Aude, ouais, et qui est boucher intérimaire. Bonjour Philippe.
Bonjour Estelle.
Bonjour Philippe.
Bonjour. Alors il y a Nordine Bourras qui est avec nous, hein, toujours président de la mosquée de Liévin.
Alors moi je suis désolé. Comment dirais-je? Moi je le vis dans les magasins. Quand je vois des gamines de 20 ans qui portent le voile, franchement ça me gêne. Et ça me gêne au point du regard surtout que ces personnes ont. Et ça franchement, moi qu'on croit ce qu'on veut. Moi je suis athée, je m'en fous. Je veux dire on croit ce qu'on veut, mais chez soi. À l'extérieur, on ne doit pas montrer sa religion. Ça, c'est un truc comme ça.
Après, quelle que soit la religion, alors Philippe, on parle aussi de la kippa, de la croix.
On est complètement d'accord là-dessus.
Okay.
Après, qu'on ait une croix, qu'on s'en fout. Je veux dire, la croix, c'est pas un truc visible. On va pas jeter un regard. Après, qu'il y a une croix d'un kilo autour du cou, si, on comprend. Mais autrement, non, franchement. Mais
la kippa, elle se voit.
Ouais, voilà, la kippa, c'est pas les personnes qui portent la kippa, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Dehors, on n'a pas à montrer ou dire sa religion. Après, quand je parle des religieux, comment dirais-je, style curé, style imam ou style sœur, que eux soient habillés différemment, ça me dérange pas.
Ça, c'est normal, oui.
Voilà, complètement d'accord. Par contre, derrière, non. Parce que moi, quand je vois ces gamines-là qui viennent faire leurs courses, alors ils viennent à 19h, parce que comme ça, il y a moins de monde dans les magasins.
Enfin, quel rapport avec le voile?
Pardon?
Quel rapport avec le voile d'aller faire ses courses à 19h?
Sans le voile, comment vous dire, il y a 10, 15 personnes qui ont le voile. Et franchement, dans un espace de 100 mètres carrés, ça me gêne.
Mais on est bien d'accord, Philippe, que ça vous gênerait pour n'importe quelle religion. Ça, c'est important.
Exactement.
De le dire aussi, quoi.
Ça me gêne, ouais, complètement. Après, on croit ce qu'on veut chez soi. Je m'en fous, on prie qui on veut.
D'accord.
Voilà. Mais ça, non.
Pas de signe ostentatoire pour vous.
Exactement, ouais. Moi, là, je suis pour une liberté totale. Et après, il y a un truc qui me gêne encore plus en tant que métier dans un boucher, c'est que 80% des agneaux qu'on mange en France sont halal.
Oui, mais alors?
Ben, pardon? Mais moi, je veux pas manger un agneau qui a eu une prière avant de mourir. Je veux pas.
Vous faites la différence entre, si on vous met, alors attendez, vous êtes bouché, vous faites la différence entre.
Pourquoi me l'oblige alors?
Mais est-ce que vous faites la différence, vous, dans l'assiette, entre un agneau halal et un agneau
halal? Et cachère pareil.
Et pourquoi, d'un autre côté, on fait pas pareil alors?
Non mais ça c'est un autre débat, Philippe.
Je vais pas vous répondre
à ça. C'est pas.
Pourquoi de l'autre côté on fait pas pareil alors? Qu'est-ce que ça change?
Mais ça change que en fait l'agneau halal, vous, en fait, vous allez le manger, vous n'allez pas voir la différence, tandis qu'effectivement, pour un musulman, si l'agneau n'est pas halal, lui va faire la différence en fait. Donc j'imagine que les bouchers veulent vendre au plus grand nombre, et donc si vous vendez halal, vous allez vendre au plus grand nombre.
Une fois cuit, lui, il va s'en apercevoir qu'il a l'âle aussi.
Mais non, mais il demande avant.
Ah, mais oui. Mais non, mais moi, je veux pas que mon agneau que je mange, il ait une prière avant de mourir.
Ok. Mais ça n'a rien à voir. Philippe, on est sur un autre débat. Je voudrais juste que Nordine Bourras, président de la mosquée de Liévin, vous réponde.
Ben, je suis abêti devant autant de commentaires nauséabonds. Franchement, c'est sous-jacent. C'est normal, il s'exprime. Mais en quoi ça le gêne qu'une femme voilée puisse aller faire ses courses, quand bien même à 19h, il y avait une connotation plus ou moins à 19h parce qu'il y a moins de monde.
Ouais.
C'est quand même incroyable. Mais c'est pas grave, écoutez, on est quand même français musulmans, à part nous jeter à la mer ouvrir les fours à un moment. C'est pénible, franchement pénible. Plus ça va, plus il y a de la surenchère, y compris verbale. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Il dit que c'est dans leur regard.
Je sais plus ce qu'il faut faire.
Il dit que c'est dans leur regard, et ce qu'il gêne, c'est que des gamines de 20 ans.
C'est l'âge aussi qui le gênait, je crois.
Mais oui, c'est la jeunesse. On est tous un peu impétueux quand on a 18-20 ans. Et on se rend pas compte des actes que l'on fait tous les jours. Mais qu'est-ce que vous voulez? De là, interpréter un regard, vous rendez compte là où on en est arrivé en France?
Je voudrais qu'on prenne Amadou qui nous appelle de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, qui est éducateur sportif. Bonjour Amadou.
Bonjour.
Et vous êtes plutôt d'accord avec Nordine Bourras, hein?
Bah effectivement, je suis d'accord avec Nordine. Après, l'auditeur qui était avec nous au téléphone, j'aurais voulu savoir d'où est-ce qu'il était, parce qu'il a dit 20 personnes, 20 jeunes filles voilées dans son magasin.
Il était à Trèbes, dans l'Aude.
Dans l'Aude, 20 personnes voilées. Franchement, honnêtement, bon, pour rebondir sur ce qu'il disait, honnêtement, moi, je pense que avant parce que l'homme politique, lorsqu'il parle, il dit le voile islamique. Il dit directement, il dit pas la kippa, il dit pas, il dit quoi que ce soit, il dit directement le voile. Et comme il dit, monsieur Bourras, il dit, on en a marre d'être la chair à canon.
Ouais, stigmatisé.
Parce que, regardez, il y a pas longtemps, il y a eu la grève des carburants. Et qu'est-ce qu'on parle à la télé? C'est, oui, il faut interdire les abayas dans les lycées. Non mais attendez, les Français.
On a parlé de tout.
On a quand même beaucoup parlé de la grève du carburant.
La grève du carburant, je peux vous dire que.
Attendez, on va pas dévier le sujet. C'est que on parle de carburant dans les informations, on va parler de l'abaya. Là, on va parler du voile islamique, mais la laïcité, c'est un terme depuis 1905. Quand Aristide Briand, il prend le rôle de médiateur dans la laïcité, hein, il est lui-même croyant. D'accord. On parle de neutralité dans l'espace public. Mais la neutralité de quoi? D'accoutrement ou de réaction face un accoutrement. C'est ça, la réalité qu'il faut comprendre. C'est, normalement, l'homme, avec le temps, s'améliore. En 1896, on avait un député qui venait en Bernousse, Philippe Grenier, député du Doubs, qui venait en Bernousse à l'Assemblée nationale.
D'accord. Mais vous êtes pour le droit de s'habiller comme on veut, en fait, dans l'espace public, quoi.
Bon, bah, bien sûr. La personne qui veut mettre, par exemple, un pantalon serré, un décolleté, il fait ce qu'il veut. La personne qui veut mettre un voile, elle fait ce qu'elle veut. La France, c'est un pays qui s'est bâti sur la tolérance. Et c'est un multiculturalisme, la France.
Ah non.
Mais
le système français d'assimilation, il n'est pas multiculturel.
Mais aujourd'hui, la France, elle est multiculturelle.
Elle est multiculturelle, mais la France pousse à l'assimilation, alors que l'Angleterre, par exemple, base son existence même sur le multiculturalisme. En France, on considère qu'il y a une culture qui est la culture française.
Oui, mais de facto, on est en train de devenir un pays multiculturel.
Oui.
Voilà. Et d'ailleurs, tu devrais le voir en regardant les restaurants. Enfin, je veux dire, la world food, il y a de plus en plus de...
Mais moi, je ne veux pas manger de pokéball.
Ah, ça, je sais, mais...
Voilà,
mais
c'est
ça,
tout.
Ça, j'entends, mais...
Je ne veux pas aller au McDo, non.
Mais c'est aussi le signe qu'on est...
C'est aussi les restos indiens, les restos turcs, tout ce qui...
On
n'est pas monoculture, mais notre modèle, c'est l'assimilation. Je veux dire, c'est pas chacun dans un ghetto avec sa religion, avec sa culture. C'est tout le monde ensemble.
On vient de me dire que vous aviez fait du ceviche à quelqu'un chez vous et que c'était quand même pas très français.
C'était très très bon d'ailleurs.
Oui, Thierry Moreau est venu manger chez moi du ceviche et c'est très bon. La bouffe péruvienne est l'une des meilleures du monde. Voilà. C'est pas du pokéball ou du truc.
Je vais terminer avec cette petite scène qui n'a rien à voir avec la chouchoute.
Oui, mais c'est important la bouffe.
Pour reprendre cette métaphore gastronomique. Merci en tout cas à Nordine Bourras d'avoir été avec nous, président de la mosquée de Liévin. Merci aux autres auditeurs. Et on a fait un sondage tout de même sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Aurélien Pradier?
C'est d'accord. C'est le d'accord qu'il emporte et d'une manière assez net. 78% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux sont pour l'interdiction du voile dans l'espace public.
Ah oui, quand même. Oui, c'est une très large majorité. Bon, bah, dans un instant, il y aura le zapping, le meilleur d'RMC. On va parler d'un fait divers à Dijon, Mathia, qui a beaucoup touché, ouais, évidemment. Emmanuel Dancourt, une femme décédée au CHU de Dijon. Elle est passée 8 jours sans manger, on l'a oublié dans sa chambre. Donc, Emmanuel, notamment, réagira à ça. La crise des gilets jaunes qui aurait pu mal tourner. Ça, ce sont des confidences de l'ancien préfet de Paris, Didier Lallemand. Et puis, les grandes gueules. On parlera de ces écoles primaires et maternelles à Rouen. Il fait 11 degrés à l'intérieur des écoles parce qu'il faut faire des économies de chauffage. Est-ce que c'est scandaleux? On en discute dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Emmanuel Dancourt et Fred Hermel. Et tout de suite, ce sont les meilleurs moments d'RMC. Le zapping, c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence avec un extrait des grandes gueules ce matin. Décès d'une femme au CHU de Dijon après avoir passé 8 jours sans manger et sans boire. Pour Joëlle Dagosséry, la coach de vie des GG, qui connaît très bien les hôpitaux, c'est de la maltraitance. Pour elle, les infirmières et les médecins auraient dû passer quotidiennement voir la patiente, ce qui n'a pas été fait.
Non, ça c'est pas de la négligence, c'est de la maltraitance. Moi, je connais l'hôpital par cœur, l'hôpital public notamment, et je suis désolée, on passe dans ta chambre, on prend tes constantes. Je veux dire, il n'y a pas juste le panneau à jeun sur la porte. Ah oui. Il y a une infirmière qui vient le matin au réveil, qui vient prendre ta température, ta tension, etc. Il y en a une qui repasse l'après-midi, etc. Donc, en fait, tu es constamment visitée. Sans compter normalement la visite quotidienne des médecins, parce qu'il y a une tournée. À chaque fois, on reçoit les médecins qui passent avec leurs internes et qui te réexpliquent. Alors, ça fait un peu cas de laboratoire, mais qui réexpliquent. Et fait, voilà, madame, elle a ça, etc. Donc, normalement, pour moi, c'est impossible, impossible d'avoir pour une jambe cassée une personne pendant 6 jours, 7 jours qui est déshydratée.
Oui, mourir pour une jambe cassée, c'est quand même absolument incroyable. Alors, ce qui est assez fou, c'est que vous aussi, Maëlle Dancourt, vous avez vécu graves mésaventures à l'hôpital de Dijon.
J'ai pas été surprise. D'abord, toutes mes condoléances à la famille de Madame Simon.
C'est incroyable.
Oui, parce que j'ai vécu la même chose il y a un an avec ma grand-mère qui est décédée au mois de mars de cette année, à 96 ans. Elle s'est cassé le col du fémur dans son EHPAD, hein, un truc assez classique. On l'envoie au CHU de Dijon, qui était juste à côté. Et normalement, ça doit s'opérer assez vite, dans les 3-4 jours. Et donc, 3 jours passent. Et donc, on préparait ma grand-mère pour le bloc. Donc, on ne mange pas quand c'est comme ça. Ouais. On ne mange pas, on ne boit pas. Et puis, en fait, on ne la descendait jamais au bloc. Alors, par contre, elle était, ses deux filles, ma mère et ma tante, étaient là constamment pour essayer de gérer les choses. Et finalement, elle ne descend jamais au bloc. Donc, elle ne mange pas 3 jours, 4 jours. 5 jours. Donc là, on a commencé à dire, attendez, vous allez la nourrir, là, parce que puis nous, on apportait des gâteaux, on apportait des trucs, parce que c'était juste pas possible, 96 ans quand même.
Et on vous dit pas, 6 jours, on vous dit pas, non, elle peut pas aller au bloc aujourd'hui, elle ira demain, après-demain.
9 jours?
Quoi?
10 jours.
Mais non.
Et elle est même descendue au bloc et ils l'ont remontée en ne l'opérant pas. Pourquoi? Alors là, ma mère a pété les plombs, hein. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital? Mais comme dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hôpitaux publics, il y a des manques de moyens, il y a des manques de personnel. Et de fait, ils perdent en coordination. Totalement, et personne n'avait repéré ma grand-mère plus que ça, quoi. Parce que, alors, je veux bien croire qu'ils travaillaient comme des fous aussi, mais il y avait un manque de coordination totale, ça ne se parlait pas.
Et personne ne prévient la famille, c'est ça que je ne comprends pas.
Ah ben nous, alors, nous, on était là en permanence. Hein. Moi, je suis allée voir ma grand-mère aussi autant que
mais
j'ai
non,
pu.
Mais personne ne demande. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc que je comprends pas. La famille ne demande pas. Bah, attendez, ma grand-mère devait être opérée le mardi.
Si,
on est mercredi.
On
ma grand-mère n'est pas.
On n'arrête pas, mais ils ne savent pas. Il faut insister comme des malades. D'ailleurs, elle le racontait. Les enfants de Madame Simon le racontaient très bien ce matin. Dans les grandes gueules, en disant on demande, mais ils savent pas. Donc au bout d'un mois, il y a quelqu'un qui accepte enfin d'appeler le bloc complètement débordé. Puis c'est vrai que ce soit une jambe cassée ou un col du fémur, c'est pas prioritaire. Donc tous les accidents ils passent avant et c'est normal. Mais de là, ce qu'on soit pas prévenu et qu'on laisse la personne. Donc voilà. Donc nous, elle est restée très très longtemps à l'hôpital, ma grand-mère. Puis on a fini par la sortir de là une fois qu'elle a enfin été opérée, en disant faut pas qu'elle reste parce que elle va y passer. Alors elle y est passée quelques mois après, mais pour d'autres raisons. Mais voilà, enfin, je suis pas surprise. Et moi-même qui étais dans ce même CHU en janvier pour une tumeur dans le nez, je suis arrivée un jour où il y avait une coupure d'électricité. Donc ils étaient sur les générateurs et machin. Et résultat, il y avait pas de chauffage. On crevait de froid. J'étais en ambulatoire, heureusement. On crevait de froid. Après, une fois que j'étais au bloc, on a été très bien traité. Il y a des chirurgiens qui sont géniaux. Mais voilà, il y a un dysfonctionnement total. Et merci d'en avoir parlé ici.
Thierry, c'est sidérant.
C'est terrifiant.
Mourir de faim, parce que vous avez une jambe cassée.
Ce que racontait Ma, c'est clair qu'il y a, un appauvrissement de notre hôpital public, ça c'est clair. Après, moi, je veux bien que ça manque de coordination, mais on n'arrête pas de dire que, justement, dans l'ensemble des fonctionnaires hospitaliers, il y en a une énorme partie, et de plus en plus, et on est dans un pays européen, il y en a le plus, qui ne sont pas au contact des soignants. Donc, si en plus, on a la partie administrative la plus importante, et qu'ils n'arrivent pas à coordonner les soignants qui viennent en bout de chaîne, on a un vrai problème. Ouais. Donc, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre, franchement.
Deuxième extrait dans ce zapping. La crise des gilets jaunes aurait-elle pu très mal tourner? L'ancien préfet de Paris, Didier Lallement, sort de silence. Dans un livre Confidence publié le mois dernier, il revient sur la crise des gilets jaunes et il confie avoir frôlé l'ouverture du feu sur la foule. Les explications de Nicolas Poincaré ce matin.
C'est l'homme qui portait une casquette trop grande pour lui et qui s'est un jour adressé à une manifestante gilet jaune en lui disant « Madame, nous ne sommes pas dans le même camp ». C'est surtout donc le préfet qui a assumé une politique très ferme, voire très violente envers les manifestants, qui a accepté, dit-il aujourd'hui, d'être détesté, d'endosser le rôle de méchant. Il a finalement quitté son poste à l'été dernier et il sort donc ces jours-ci de son silence dans un livre et puis dans plusieurs interviews, dont une publiée hier par L'Opinion. C'est donc dans ce journal qu'il révèle qu'effectivement, au plus fort de la crise, on a frôlé l'ouverture du feu, c'est-à-dire que les forces de l'ordre auraient pu être amenées à tirer sur la foule. Didier Lallement n'indique pas le jour et le lieu où on a frôlé ce drame, mais il estime que cela risque d'arriver un jour et que ce jour-là, on entrera dans une autre dimension.
C'est hallucinant quand même, Fred Hermel, d'apprendre ça aujourd'hui.
Oui, après, ça ne fait que confirmer ce que moi, on m'a déjà dit. Moi, j'ai des amis, je connais des gens qui avaient des fusils chargés chez eux à certaines manifestations des Gilets jaunes, qui avaient des informations privilégiées, parce que ça pouvait tomber très mal, tout en est très mal. Il y a l'Élysée, des ministères qui ont été attaqués, il y a l'Élysée qui est attaquée. Il y a eu un moment sur une journée, je ne sais plus exactement quelle journée, mais un vent de panique au plus haut de l'État, au plus haut, au sommet de l'État, en disant, oui, on peut être amené à tirer sur la foule. Donc, enfin, sortent des informations qui circulaient un peu sous le manteau entre gens, des gens qui vous racontaient qu'ils avaient été au contact du pouvoir.
Vous imaginez tirer sur la foule des manifestants, enfin, genre,
oui, mais parce qu'il y avait une certaine violence.
Mais il y avait une violence. Il faut se souvenir de l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay.
Mais bien sûr.
Il y avait quelques policiers qui étaient dans cette préfecture du Puy-en-Velay. Il y a eu délibérément. Il y a un incendie qui a été allumé pour faire brûler
les policiers,
le bâtiment avec le personnel à l'intérieur, et ces quelques policiers qui étaient trois ou quatre qui ont été on est passé à deux doigts du drame. Donc effectivement Fatima n'est pas là, mais elle s'en porterait si elle était là. Mais il y a eu évidemment des drames, il y a eu des bavures faites par un certain nombre, mais dans leur immense majorité, et j'assume ce que je dis, les forces de l'ordre ont eu un comportement exemplaire durant cette crise.
Mais c'est ce que je voulais rajouter. On était à deux doigts, mais on n'a pas franchi ce
On était pas loin.
Ok. Deux choses. Aux États-Unis, on a vu qu'une grande démocratie comme les États-Unis, elles sont pas passées à deux doigts. Parce que il y a eu 4 ou 5 morts, je crois. Oui. Donc, on aurait pu avoir ce type de phénomène. L'important, c'est que ça ne se soit pas passé, que nos institutions étaient suffisamment fortes. Et la deuxième chose, et vous m'empêcherez pas de le penser, le préfet Lallement sort un livre. C'est bien quand dans un livre il y a une phrase un peu choc.
Oui, mais c'est la réalité.
Ça met l'État en cause, quand même.
Vous savez,
ça met l'État en cause. C'est pas une petite phrase.
Sauf qu'encore une fois, ça n'a pas lieu.
Non, que l'État a bien géré, justement.
Voilà.
Parce que la violence était telle. Absolument. La violence était telle que l'État a bien géré.
Mais ça veut dire que l'État y a réfléchi. Moi, ça me choque. Excusez-moi.
L'État doit toujours avoir toutes les hypothèses sur la
crise. Il faut quand même se souvenir qu'à ce moment-là, au cœur de la crise des Gilets jaunes, au cœur des violences des Gilets jaunes, lorsqu'il y a eu l'incendie du Fouquet, c'est notamment sur les Champs-Élysées, etc., les renseignements savaient, et il y a eu des appels pour que les manifestants se dirigent vers l'Élysée.
Oui. Avec des fusils.
Mais bien sûr.
Rentrer dans l'Élysée.
Et d'ailleurs, dans les milieux autorisés, on raconte que le président de la République n'est plus le même depuis ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y a un tournant dans la présidence. C'était encore le précédent quinquennat. Il y a un tournant où là, Macron a été a été face à la plus grave crise qu'on ait connue depuis, depuis mai 68, hein, au niveau de cette violence.
Les grandes gueules ce matin, faut-il faire des économies à tout prix? Des écoles primaires et maternelles à Rouen n'ont toujours pas allumé leur chauffage. Non. Certains parents ont relevé 11 degrés dans les classes. Pour Joël Dagosséry, c'est une honte. Il est impossible de se concentrer et de travailler dans ces conditions et les élèves risquent de tomber malades.
Non seulement tu as des risques de tomber malade, mais en plus comment tu te concentres? Enfin, va essayer de travailler, quand d'écouter des cours pendant 8 heures alors que tu cailles, c'est impossible, c'est pas possible. Donc là, il fallait autant être honnête et dire l'école est fermée, mais je veux dire même éteindre complètement le chauffage et le faire repartir, je me demande si en termes de d'énergie, est-ce que ça c'est ouais. c'est quelque chose d'intelligent? Je veux dire ça tire, enfin
faut bien laisser une température constante.
Mais complètement ça doit tirer à max pour remettre les salles à température. Et puis la dernière chose, c'est quand est-ce que enfin on a des bâtiments qui sont isolés correctement? Enfin, je suis pas sûre que encore en France, enfin, t'as pas tous les bâtiments qui sont isolés correctement, donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais éteindre le chauffage complètement, pour moi, c'est la dernière chose à faire.
Ouais, sachant que les écoles sont souvent extrêmement mal isolées, mais ils font quoi, les gamins? Ils écrivent avec des gants?
Non, mais en fait, il y a des parents, il y a plein de parents qui ont retiré les enfants. Et moi, honnêtement, à 11 degrés, je vais chercher mon fils, hein. Je le laisse pas là-dedans, quoi. Mais le problème, Arthur, il est à 9 ans. Alors, on suit plus.
Ouais, donc, vous avez tellement d'enfants, moi, je me perds.
Mais en fait, c'est ça, c'était la question, c'est est-ce qu'on va retirer ses enfants ou pas? Moi, à 11 degrés, je me prends le directeur en face. Alors, il fera jamais ça, le nôtre. Mais, et puis surtout, moi, je vais aller avoir à la mairie aussi, s'ils sont à 11 degrés, puis au département, s'ils sont à 11 degrés, puis à la région, s'ils sont à 11 degrés. Et je suis à peu près sûre qu'ils le sont pas du tout. Donc, c'est hallucinant ce qui se passe, hein.
Il y aurait grève.
Mais à juste titre, bien sûr. Alors, moi, à 11 degrés, moi, je fais un sitting devant l'école, hein, et je demande des explications. Tu te rends compte, c'est un truc de malade.
Les gens sont pas sûrs.
Il fera plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Surtout qu'ils ont dû se dire, attends, les gamins, là, qui ont 3-4 ans, ils vont pas aller se plaindre à leurs parents, ils savent pas qu'il fait 11 degrés. Oui. Ils ont dû miser là-dessus, tu vois.
Il y a les maîtresses et les maîtres.
Là où elle a raison, c'est qu'en plus, éteindre le chauffage pour leur année, ensuite, il n'y a rien de plus contre-productif. Il faut bien avoir un minimum stable, baisser éventuellement d'un degré.
Tu vois, mais.
Voilà. Baisser d'un degré, c'est beaucoup plus.
Économique,
voilà.
Moins énergivore,
que de couper et de rallumer. Oui. Enfin, tout le monde sait ça. Quoi.
Enfin, quand on arrive à telles extrémités, c'est-à-dire que la commune a plus un sou.
Non, mais on a donné 1 milliard pour la transition énergétique à l'abri du CID.
Ça n'a rien à voir avec la
ville d'Oran n'est pas en Afrique du Sud, ouais.
Tu te trompes, Fred. Le problème, il est que le bouclier énergétique, qui doit permettre normalement aux collectivités locales de passer leur budget à cause de l'augmentation du budget énergétique, faut le temps que ça se débloque. Et en attendant, c'est compliqué. Il est là le problème. Il est plus dans la lenteur de l'administration française.
Mais ça aussi, on devrait couper un peu la
que
aussi,
le fait de globaliser la lutte contre le réchauffement climatique en donnant 1 milliard à l'Afrique du Sud, qui encore une fois est une goutte d'eau et qui est en fait une vision macro. Il faut vraiment que tu dézoomes.
Mais j'ai aucun problème avec ta vision macro. Mais les gamins de 9 ans qui sont à 11 degrés, eux, ils ont une vision très micro de leur vie.
Et c'est pas parce qu'on ne donnera pas 1 milliard à l'Afrique du Sud qu'ils seront 12 degrés ou 13 degrés.
On parle du symbole. Ce milliard, il aurait peut-être été utile dans les écoles de Rouen.
Symboles.
Les 11 degrés, ils sont pas symboliques, tu vois ce que je veux dire?
Voilà,
c'est vrai, 11 degrés, à un moment, il faut trouver une solution. Et c'est pas parce qu'on donne pas 1 milliard à l'Afrique du Sud qu'on donnera 100 000 à l'école de Rouen.
Bah, je suis désolé d'être bébête. Ouais, je suis bébête.
Mais c'est pas bébête, c'est juste que les budgets.
Mais la taxe d'habitation, elle servait aussi à ça et on l'a supprimé.
On l'a supprimé, bah ouais. Mais bon, Anne Hidalgo a augmenté de 50% la taxe foncière à Paris, donc tout va bien.
Dans un instant, j'ai une bonne nouvelle. Parce qu'on a peut-être parlé d'inflation, des choses qui vont pas et tout, mais là j'ai un truc qui va bien. C'est la minute conso de Stéphane Pedrazzi et Stéphane va nous parler d'un truc incroyable. Personne ne le sait, mais chacun d'entre nous, d'entre les auditeurs et les spectateurs, peut bénéficier une fois par an d'un billet SNCF à prix extrêmement réduit. Il suffit juste de télécharger un formulaire. Ouais. Stéphane Pedrazzi nous explique tout ça dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h49 sur RMC, RMC Story, et c'est le moment de parler conso avec Stéphane Pedrazzi, la Minute Conso.
RMC, Estelle Midi,
la Minute Conso.
Et dans cette morosité, en ce moment, Stéphane, vous nous apportez une bonne nouvelle, un petit rayon de soleil, des économies à faire sur des billets de train.
Oui, parce que la période de réservation pour les billets de train pour Noël, elle a commencé depuis longtemps, et si vous n'avez pas réservé parmi les premiers, les billets maintenant, les moins chers, ne sont plus disponibles, mais il existe de billet dont on parle assez peu, qui permet d'économiser de 25 à 50% par rapport au tarif normal. Ça s'appelle le billet congé annuel. Alors ça existe depuis très longtemps, on n'était pas nés, c'est 1900.
1936 avec les congés payés. Mais on n'en parle pratiquement jamais parce que c'est pas toujours l'option la plus intéressante financièrement. Parce qu'en réalité, pendant l'année, il y a généralement des offres plus attractives à la SNCF, des réductions plus intéressantes, mais à l'approche des fêtes de Noël ou à l'approche des vacances d'été, lorsqu'il n'y a plus de réductions disponibles, eh bien ces billets congés annuels peuvent être de nouveau intéressants. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui.
Et tout le monde peut bénéficier de ces billets ?
Pratiquement tout le monde. Salariés, retraités, demandeurs d'emploi, travailleurs indépendants, la liste est très très longue. En fait, il n'y a que les étudiants qui n'en bénéficient pas, mais ils peuvent être attachés à leurs parents. Alors, il y a malgré tout, un certain nombre de conditions à respecter. C'est une seule fois par an, ce type de billet. On peut en demander un seul. Trajet en France uniquement est de 200 km minimum, donc typiquement c'est pour les vacances.
C'est TGV, ouais.
Réduction valable pour toute la famille, c'est-à-dire votre conjoint, vos enfants sans limitation, à condition qu'ils aient moins de 21 ans. Si vous avez 15 enfants, ça marche quand même. Ça fonctionne aussi avec les parents, à une condition, c'est d'être célibataire et que les parents habitent chez vous. Vous connaissez, j'habite seul avec maman.
Oui, tout à fait.
La réduction de 25% sur les TGV Inouï, les Intercités et les TER, elle est calculée à partir d'un plein tarif deuxième classe. Et c'est là qu'il y a une astuce. Plein tarif deuxième classe, attention, c'est assez cher. Et 25% d'un plein tarif, généralement, c'est moins intéressant que certaines réductions de la SNCF. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu tombé dans l'oubli, ce billet congé annuel. Mais il y a une astuce.
Ah.
Si vous payez au moins la moitié du billet en chèque vacances, alors la réduction grimpe à 50%.
C'est énorme.
Et là, ça devient très intéressant.
À condition d'avoir des chèques vacances.
À condition de voyager aussi en période bleue au début du voyage. Voilà, il y a deux conditions.
Ouais.
Comment est-ce qu'on fait pour acheter ce billet congé annuel ?
Alors, prenez de quoi noter. Il faut télécharger un formulaire sur le site de la SNCF.
Ça,
c'est relativement
facile.
On l'a ici. Ensuite, il faut le faire signer et tamponner par votre employeur. Si vous n'avez pas d'employeur, alors une attestation sur l'honneur suffit. Elle est également sur le formulaire.
Donc c'est vous qui signez, quoi ?
Oui, okay. À condition d'être travailleur indépendant. Si vous êtes salarié, il faut demander à l'employeur. Ensuite, vous allez dans une gare ou une boutique SNCF, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas en ligne.
Ah,
ça viendra peut-être un jour.
Il y a
si
plus
vous
de boutique.
Habitez loin d'une gare, vous imaginez,
gare.
Il faut effectivement...
Il n'y a plus de guichet.
Voilà, donc c'est un petit peu fastidieux, mais au final, dans certaines conditions, ça peut valoir le coup, surtout une fois encore à l'approche des... Achetez votre billet pour Noël.
Et est-ce que ça permet vraiment de payer moins cher ? Parce que moi j'étais comme une dingue sur ces billets, mais je vous sens un tout petit peu dubitatif.
Alors je suis allé voir ce matin, Paris-Bordeaux pour Noël, départ le 23, retour le 27 décembre. Un couple, deux enfants de 14 et 16 ans, option la moins chère sur le site de la SNCF, à condition de partir à 5h du matin, 572 € aller-retour, ça c'est le tarif SNCF.
D'accord.
Avec le billet congé, 444 €, là il n'y a pas de problème. D'horaire, puisque c'est le plein tarif 50%, donc ça fait une économie de 128 €.
C'est
et
énorme.
Pour le prix, vous avez un billet qui est entièrement remboursable, ça c'est plutôt pas mal. Vous avez même le droit de faire un arrêt en route, si vous avez de la famille ou des amis qui habitent sur le trajet, vous pouvez faire ce qu'on appelle en bon français un stop-over, et vous arrêtez chez les amis, c'est compris dans le tarif.
Alors, est-ce que beaucoup de personnes utilisent ce système ? Parce que moi, franchement, quand vous m'avez parlé de ce billet congé, je me suis dit, mais c'est pas possible, je n'en ai jamais entendu parler. Donc,
pourtant,
j'ai fait un petit sondage autour de moi.
Sur le site de la SNCF.
Enfin, il est très caché.
Non.
Bon, vous rigolez ou quoi ?
Sur Google, billet congé annuel, on arrive directement sur la page de la SNCF.
Oui, mais encore faut-il savoir que ça existe, parce que je ne vais pas taper billet congé annuel si je ne sais pas que ça existe.
C'est pour ça qu'on est là.
Eh bien, exactement. Mais donc, en fait, personne ne savait que ça existait.
120 000 personnes l'ont utilisé en 2019. C'est extrêmement peu. Lorsqu'il avait été lancé en 1936, 1,8 million de personnes l'avaient utilisé l'été suivant, et c'était il y a pratiquement un siècle. Donc autant vous dire que c'est tombé complètement en désuétude, mais puisqu'on en parle aujourd'hui, on est sûr que la SNCF va avoir 3 fois plus de demandes demain matin.
Ça c'est sûr, et puis il faut aussi que les entreprises communiquent là-dessus. Est-ce que vous avez un dernier bon plan pour les billets de train ?
Eh oui, alors je crois que vous en avez un petit peu parlé, mais c'est très intéressant. On a fait récemment une chronique sur, vous savez, la revente de billets de train sur Internet.
Oui.
Normalement c'est interdit, mais on peut s'arranger un petit peu avec la réalité. La filiale de la SNCF, Ouigo, vient de lancer un système où on peut se faire rembourser son billet si on ne voyage pas, à condition que quelqu'un d'autre le rachète. En fait, c'est comme si on revendait son billet. La SNCF s'est rendu compte que sur les Ouigo, 10% des personnes n'utilisaient pas leur billet. Donc, ils ont créé des listes d'attente quand les trains sont complets. Et si vous annulez votre billet et qu'une personne en liste d'attente le rachète, la SNCF vous rend 80% de ce que vous avez payé. C'est pas mal.
Non, mais parce que là j'ai réservé un Ouigo, par exemple, pendant quelques jours. Non, mais
c'est une info. Estelle Denis en Ouigo.
Bah, il y avait que ça. Attendez. Et ça veut dire, mais je suis pas sûre de le prendre. Donc, ça veut dire qu'en fait, mais comment je fais ? C'est-à-dire que je fais annuler mon Ouigo ?
Ouais. Annulé et la SNCF le rembourse uniquement si une personne le...
Ah bah oui, mais comment je peux savoir s'il y a une personne qui va la racheter? Parce que si personne
ne rachète,
je vais
faire
le prix.
Si c'est un train aux heures de pointe ou une destination qui est intéressante, il y aura forcément quelqu'un pour le racheter.
Bah écoutez, bah c'est un pari.
Alors, t'es joueuse, non?
La SNCF,
t'es joueuse, c'est un pari.
Je vais tenter, mais enfin quand même, j'ai payé ça 60 balles. Donc
voilà, 60 balles. Mais à la dernière minute, il sera vendu probablement beaucoup plus cher. Donc la SNCF, il gagne parce qu'il le revend plus cher.
Moi, je peux pas rendre plus cher.
Ah non, c'est 80% de 60 balles. Non, mais.
Excusez-moi.
Ça s'appelle le capitalisme,
Estelle. Sur mes billets, enfin, c'est quand même incroyable.
Surtout, il est marqué billet d'Estelle Denis. Ils vont le revendre aux enchères, ça va être...
Ah ouais. Pas mal, pas mal.
Comme le wagon de la reine.
Merci beaucoup, c'est Stéphane Pedrazzi, pour ce bon plan. Voilà, billet congé annuel. Vous allez sur Google, vous tapez ça dans la barre.
Exactement, ça fonctionne.
La barre d'outils, et ça fonctionne. Vous tombez directement sur le formulaire. Merci pour ce bon plan. On parle de quoi demain, Stéphane?
On parlera immobilier.
Ah, oh, super.
Oui.
Mais de quoi?
Eh ben, on verra demain.
Ah d'accord, je suis sûre que c'est le moment d'acheter. Dans un instant. Oh là là, on va parler d'économie.
Encore?
C'est une catastrophe. Plus aucune voiture en France, aucune voiture neuve, à moins de 10 000 euros. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Même la Dacia est à 11 000. La voiture électrique la moins chère, c'est 20 000. Est-ce que la voiture est devenue un luxe? On attend bien sûr vos réactions, vos témoignages au 3216 et sur l'application RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.